Bonjour Mireille, la belle-mère. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis. Bonjour Sonny. Que Dieu vous bénisse. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais juste aller chercher les collations pour la demoiselle. J'ai oublié de les sortir. Donc on est le jeudi 14 octobre aujourd'hui, journée ennuagée ou nuageuse, un peu grisâtre, mais ça va, il fait pas froid. Du moins pour ceux qui aiment la chaleur, vous n'êtes pas encore dans le malheur. On s'excuse encore, différents problèmes techniques sont survenus hier soir pendant l'étude biblique. C'est les désagréments de l'informatique. Quand ça décide de planter, ça ne nous avise habituellement pas à l'avance. Donc, quelques petits problèmes hier soir, mais ce matin, on espère que ça va. Bonjour Lucie. Bonjour à mon père, à ma mère. Donc on continue aujourd'hui notre étude sur la tentation de Christ et les leçons qu'on peut en tirer pour nous-mêmes. Et ceux qui veulent déjà annoter dans leur Bible le passage qu'on lit aujourd'hui, c'est toujours dans Matthieu au chapitre 4, le verset 1 à 11. Donc il y a plus de monde qui est connecté. Mais je ne vois pas tous les noms. Donc si je ne vous ai pas encore nommé et que vous voulez avoir une petite salutation très personnalisée, il vous suffit donc d'inscrire un petit mot dans la zone commentaire et comme ça vous serez identifié. Bonjour Pascal, que Dieu vous bénisse, bienvenue parmi nous ce matin. On vous rappelle que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche sont toujours cours. La première vague d'inscription a été confirmée hier soir. Mais vous avez bien entendu jusqu'à vendredi midi pour vous inscrire afin d'assister en présentiel à l'assemblée de dimanche. Et comme il n'est que 8h25, vous pouvez encore aller vous chercher votre café, votre thé. Ou peut-être que vous allez opter pour quelque chose d'un peu plus frais. Jus d'orange, jus de pomme, chocolat au lait. Bonjour Thérèse, que Dieu te bénisse. Bonjour Guy, que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien. J'ai eu ton message par le frère Gilles. Donc le frère Gilles m'a donné tes nouvelles. Donc content que tu ailles un peu mieux. Mais on prie aussi pour, il m'a dit, donc opération au niveau des yeux. Donc on prie que tout se passe bien. Ma mère et ma belle-mère l'ont eu aussi. Je suppose que dorénavant, à partir d'un certain âge, ou d'un âge certain, on y passe tous un peu. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Bonjour Rachel, et merci pour les bons mots. Bénédiction pour toi, et pour les sœurs qui sont connectées avec toi, la sœur Ocilia, la sœur Chantal, la sœur Mona, que Dieu vous bénisse. Bonjour Denise, que Dieu vous bénisse, bon matin à vous. Buenos días, hermana Susana. Que Dios me la bendiga y a su esposo también. Alors encore 3-4 minutes. Buenos días, hermana Argelia. Que Dios me la bendiga. Y saludos a sus hijos. Bonjour Denise, bonjour Gérard, soyez bénis. Yesu Aini Yoi Nihao. Bonjour Maggie, que Dieu vous bénisse. Immaculée, bonjour. Bienvenue parmi nous ce matin. Julie, bonjour. Que Dieu vous bénisse. je me suis rappelé en vous, après vous avoir parlé samedi, je me suis rappelé d'un des villages par lesquels on passait quand je vous parlais de la vieille route entre Shawinigan et puis Trois-Rivières. On passait, il y avait une dame qui fréquentait l'église. Mes parents étaient pasteurs pendant un an et demi environ. Un an et demi, excusez, je viens de lire un autre truc. Donc, ils ont été pasteurs à Shawinigan pendant un an et demi. On avait une église là-bas et on faisait bien sûr souvent la route entre Shawinigan et Trois-Rivières. Et on avait une sœur qui habitait à Mont-Carmel. Le nom m'est resté parce que, bien sûr, c'est un nom biblique, puisque c'est là-bas où Élie a fait descendre le feu du ciel avec les preuves concernant. Avec les prophètes de Baal et d'Astarté. Donc on passait par Mont-Carmel, effectivement. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne doit pas être très loin de chez vous, ça. Alors que Dieu vous bénisse, salutations à votre époux. Il y a eu, comme je disais hier, Rachel, il y a eu effectivement des problématiques avec l'informatique hier soir, mais. Ça a bien terminé. Tout a été résolu vers la fin, malheureusement, mais bon. Donc, différentes problématiques qui sont survenues en même temps sur les différents ordinateurs qu'on utilise pour diffuser. Bonjour Babette. Bonjour à Andreas, votre époux. Alors on va prier pour débuter. Et après ça, on continue donc notre étude débutée mardi plutôt, avec comme thématique la tentation de Christ et ses leçons pour nous. Alors prions. Merci encore Seigneur de cette occasion que tu nous donnes d'être rassemblés pour chercher ta face, pour élever ton nom et pour être rassasiés, nourris. Et enrichi par ta parole, nous prions effectivement, Seigneur, que ta grâce nous soit accordée, que tu ouvres notre entendement, notre compréhension, afin de recevoir pleinement ce que tu as pour nous aujourd'hui. Ta parole, assurément, dans la thématique qu'on a cette semaine, nous sert à déjouer les stratagèmes, les plans et les pièges de l'ennemi. Puisses-tu, Seigneur, nous éclairer. Puisses-tu nous permettre, Seigneur, de mettre en pratique ce que nous recevons cette semaine, afin, Seigneur, de ne pas céder à la tentation et aux propositions du diable, mais que nous puissions tenir ferme tel que ta parole nous l'indique lorsque la tentation vient sur nous. Alors, en toute chose, bénis ma sœur, bénis mon frère. Permets-nous, Seigneur, de passer un temps agréable, mais un temps aussi, Seigneur, enrichissant les uns avec les autres. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, on ouvre nos Bibles toujours dans Matthieu chapitre 4 du verset 1 au verset 11. Je remets mes lunettes juste pour la période de lecture parce que c'est écrit un peu plus petit. Alors, Matthieu 4, 1 nous dit: Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Je relis pour vous les passages le verset qui nous sert de réflexion ce matin, donc les versets 5, 6 et 7, qui nous disent « Le diable transporta Jésus, bien entendu, dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet » et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors comme on l'a dit, pour cette semaine, on étudie la tentation de Christ en essayant de faire ressortir les leçons qui peuvent nous être enseignées. Leçons qui nous sont enseignées non seulement sur les stratégies du diable, ce qu'il utilise pour nous tenter, les domaines dans lesquels il nous attaque, mais de surcroît à cela, aussi les leçons qu'on peut tirer de la réponse que Jésus donne à chacune de ces tentations. Ces trois tentations successives qui surviennent, et le diable utilise trois approches différentes. Hier, il nous amenait à nous poser la question « Crois-tu être vraiment capable ?» C'était la tentation par rapport à notre propre personne. On a vu que le diable pouvait augmenter la pression sur nous lorsqu'on est sous un coup de fatigue psychologique, spirituelle ou physique, qu'il vient nous tenter par rapport à des domaines purement humains, qu'il met en doute notre statut en Christ, qu'il met en doute nos capacités à résister, nos capacités à suivre Dieu, qu'il nous propose de bifurquer du plan de Dieu, et enfin qu'il nous propose de prioriser nos propres désirs avant le plan de Dieu. Donc dans cette première approche, le diable visait notre personne ou utilisait notre personne, notre condition comme l'occasion de nous tenter et de nous faire chuter. Dans cette deuxième phase qu'on voit aujourd'hui, le diable va prendre Jésus et va le transporter jusqu'au haut du temple et va lui dire « Voici ce que dit la Bible. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc effectivement, le diable vient utiliser la parole de Dieu pour amener l'enfant de Dieu, non pas à comprendre ce passage dans le contexte qu'il est écrit, non pas à l'appliquer dans le contexte biblique, mais à le détourner de son sens pour permettre la chute ou pour justifier, en fait, une bifurcation de notre part loin de la volonté, du plan et des desseins de Dieu. Alors, la première chose qu'on peut dire sur ce passage, le diable vient et oui, va remettre en question non plus notre personne, mais remettre en question Dieu par rapport à nous. Et ce que le diable est en train de dire à Jésus, il dit « Jette-toi en bas, tu vas voir si Dieu est vraiment fidèle. Jette-toi, parce que de toute manière, s'il est vraiment qui il dit qu'il est, il a assuré que ton pied ne chancellerait pas, que tu ne heurterais pas contre une pierre, donc il va à tout prix te sauver, te préserver, t'éviter une mort certaine si tu te jettes en bas. » Donc ici, le diable attaque la fidélité de Dieu. Dieu est-il vraiment fidèle? Voilà le premier point sur lequel le diable va attaquer Jésus. Et on s'entend, on répète encore et on ne cessera de le répéter tout au long de cette semaine, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et c'est dans cette facette de l'homme qu'il est tenté, comme on l'a vu hier dans 1 Corinthiens 13, si je ne m'abuse, où on dit que la tentation est humaine. Donc, Jésus a été tenté en toute chose, telle que la Bible nous le dit, dans sa facette humaine. Et dans cette facette humaine, le doute que le diable a voulu semer chez lui, c'était quant à la fidélité même de Dieu. Combien de fois le diable utilise le même stratagème par rapport à nous? Combien de fois le diable vient semer le doute en nous quant à la fidélité de Dieu, quant à la constance des soins que Dieu accorde à ses enfants, quant à la constance de la protection que Dieu accorde à ses enfants? Combien de fois on est passé par un moment difficile et on s'est demandé, mais où est Dieu? Ou quelqu'un est venu nous poser la question, mais où est ton Dieu? Un peu comme la femme de Job va remettre en question un peu la fidélité de Dieu envers son mari. Rendu où tu en es, qu'est-ce qui te sert de continuer à honorer ton Dieu? Maudis-le et meurs. Et pour nous, parfois, c'est la même chose. Peut-être avec des mots moins crus, avec des mots moins durs, avec une parole moins assurée. Mais foncièrement, la tentative du diable est la même de nous amener effectivement dans un stratagème, dans une situation où il nous fait douter de la fidélité de Dieu. Je peux vous parler de telle situation, étant moi-même passé par des moments difficiles, étant moi-même passé par la maladie ou par d'autres circonstances dans ma vie, où à l'occasion, ce qui venait, c'est « Florent, tu dis que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, mais pourquoi permet-il cette chose dans ta vie? » Alors oui, c'était le diable qui insufflait ces choses à mon oreille, qui insufflait ces choses dans ma pensée, et je suis convaincu qu'il le fait aussi avec vous. Quelqu'un perd un être cher, quelqu'un perd un emploi, quelqu'un voit une porte qui se ferme, et la première pensée que le diable tente d'implanter dans notre esprit, c'est « Mais où est la fidélité de Dieu là-dedans? » Donc la première tentative du diable, c'est mettre en doute la fidélité de Dieu. De surcroît à cela, il utilise aussi la parole de Dieu. Vous comprenez que le diable connaît la Bible. Le diable connaît tous les passages de la Bible. Il peut réciter la Bible sur un claquement de doigts et il la connaît assurément mieux que nous tous. Et à l'occasion, le diable va effectivement utiliser cette parole, la parole de Dieu, pour nous mener à mal, pour nous mener vers la tentation. C'est ce qu'il fait avec Jésus. Alors, il utilise une voie sinueuse, insidieuse, en arrivant avec cet aspect un peu spirituel, je dirais peut-être mieux religieux, en utilisant la Bible et en disant « Hey, la Bible dit telle chose, alors fais telle chose. La Bible te dit que Dieu va te préserver, alors pourquoi tu n'irais pas te mettre en danger, puisque de toute manière, il t'aime et il prend soin de toi. » Alors le diable va non seulement utiliser la Bible et la déformer, la retirer de son sens initial pour ses propos très personnels à lui. Et donc, il nous faut être conscients de cette stratégie du diable, qu'il utilise la parole de Dieu très régulièrement. Alors, ce n'est pas tout ce qui est dit comme étant parole de Dieu qui est nécessairement ce que Dieu veut qu'on entende. Souvent, je le dis à propos d'une prophétie, c'est pas parce que quelqu'un dit « Ainsi parle l'Éternel » que c'est vraiment l'Éternel qui parle. Souvent, c'est juste les émotions et l'imagination des gens. Et à l'occasion, ça peut même être le diable qui récite la parole de Dieu juste pour nous amener en tentation, ce qu'il fait dans le cas de Jésus. Alors, mise en doute de la fidélité de Dieu, utilisation de la fidélité de la parole de Dieu pour nous tromper et nous faire chuter. De surcroît à cela, il met aussi en doute la véracité de la parole de Dieu. Lorsque le diable s'est approché d'Adam et Ève, à la première tentation qu'a connue l'humanité et au premier péché qu'a connu l'humanité, qu'est-ce qu'a fait le diable? Il s'est approché et il leur a demandé « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne deviez pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? » Dieu a-t-il vraiment dit? Et quand Adam et Ève lui disent, effectivement, Dieu l'a dit, effectivement, il nous a dit qu'on allait mourir si on mangeait de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le diable vient mettre en doute la parole de Dieu en disant, il n'en est point comme cela. En fait, Dieu sait que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Donc le diable vient mettre en doute la parole de Dieu. Et dans notre cas, c'est aussi ce qu'il préconise. Donc il va venir mettre en doute notre croyance en la véracité et en la perfection de la parole de Dieu. Et il faut donc faire attention à cela aussi. Le diable vient non seulement mettre en doute la fidélité de Dieu, mais mettre en doute aussi sa parole. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète, elle est distorsionnée par des hommes qui ont écrit, elle est ceci, elle est cela. On va faire ça très simple. La parole de Dieu est parfaite en tout temps, en tout lieu. Que nous soyons capables de la lire dans des profondeurs intenses qu'elle peut avoir, ou que nous la lisions ne serait-ce que de surface, cette parole de Dieu ne ment pas, elle est parfaitement parfaite. C'est redondant, mais je fais exprès. Donc le diable va venir mettre en doute la véracité de la parole de Dieu. Mais ce faisant, il met non seulement en doute la fidélité de Dieu, mais il met en doute aussi la véracité de sa parole. Donc, il met en doute notre certitude. S'il n'est pas capable de mettre en doute la vérité que Dieu proclame, s'il n'est pas capable de mettre en doute la fidélité qui est attribuée à Dieu, il va mettre en doute notre foi en cette vérité et notre foi en cette vérité qu'est la parole de Dieu et qu'est les choses que Dieu a proclamées dans son union avec nous. Donc, mise en doute de notre certitude face à la fidélité et à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, on s'est tous levé un matin puis en disant, je proclame que ta parole est véridique. On a tous eu cet élan à l'occasion où on dit, je crois effectivement du premier mot jusqu'au dernier mot des Écritures comme étant inspiré de Dieu, comme étant la parole même de Dieu et comme étant la parfaite parole de Dieu. Mais un jour survient un problème, un jour survient une situation et là, une des choses qui va être éprouvée, c'est notre sentiment envers cette parole, notre foi envers cette parole, notre dépendance envers cette parole, notre lien envers cette parole. Alors, quand tu as des difficultés, as-tu remarqué que très souvent, tu essaies de te réfugier dans autre chose que la parole de Dieu? On essaie parfois de se réfugier dans nos propres tentatives, dans une sagesse qui n'est plus celle de Dieu, mais qui est celle de quelqu'un ici-bas sur terre. Parfois, on va laisser de côté la parole de Dieu parce qu'au fin fond de nous, on commence à avoir un point d'interrogation sur la vérité de cette parole. Je dis souvent que lorsque les situations se présentent et que je n'arrive pas à faire cadrer ces situations avec la parole de Dieu, je n'arrive pas à faire cadrer ces situations avec ce que la parole de Dieu proclame, la conclusion à laquelle je suis arrivé et à laquelle je reviens très régulièrement, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je ne veux aucunement mettre en doute la parole de Dieu. Je ne veux aucunement mettre un bémol, mettre un dièse et poser une question envers cette parole. Je dis simplement, il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas compris dans cette parole. Parfois, les gens prient pour des guérisons en disant, mais le Seigneur a dit qu'il guérissait toutes les maladies, qu'il a pris toutes nos maladies et qu'il guérit toutes nos maladies. Et il regarde ce verset en se disant, ben par conséquent, il doit me guérir à moi puisqu'il guérit toutes nos maladies. Et donc, un chrétien qui est malade est un mauvais chrétien, où il doit y avoir un péché dans sa vie, où il doit avoir une condition qui empêche Dieu d'amener la guérison. Jésus n'a pas dit, la Bible n'a pas dit que Dieu guérissait tous les malades. Il a dit que Dieu guérit toutes les maladies. Ça veut donc dire qu'il a le remède pour toutes les maladies. mais ça ne veut pas dire que ce remède va être appliqué à tous les malades. Vous voyez la différence? Et parfois, lorsqu'on ne ramène pas notre pensée dans la compréhension intégrale de la parole de Dieu, dans la compréhension juste de la parole de Dieu, on fait dire à la parole quelque chose qui n'est pas. On fait dire à la parole que Dieu guérit tous les malades, alors que ce n'est pas ça qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est qu'il guérissait toutes nos maladies. Donc, il est capable de guérir toutes les maladies qui affectent l'être humain, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est capable, parce qu'il en a le pouvoir, qu'il guérit nécessairement tous les malades. Alors, quand j'ai été moi-même malade, je n'ai pas reçu la guérison spectaculaire comme mon père peut l'avoir eu avec la sclérose en plaques au début des années 80, la fin des années 70 et le début des années 80. Je n'ai pas expérimenté un tel miracle dans ma vie. Je suis passé par tout le parcours normal ou qu'on juge maintenant normal d'un malade dans le système de la santé. Et à travers cela, Dieu m'a soutenu. Je sais que je suis miraculé aujourd'hui. Mon médecin principal le dit lui-même. Les médecins qui l'assistent le disent eux aussi. Que je ne serais pas supposé être encore vivant aujourd'hui et surtout pas dans un état de santé tel que je peux le connaître aujourd'hui, même si, bon, il y a quelques difficultés qui suivent ou qui viennent faire suite au traitement que j'ai eu, mais je suis à leurs yeux un miraculé et je suis à leurs yeux un point d'interrogation. Mais je n'ai pas reçu la guérison miraculeuse que mon père avait reçue de son côté. Alors oui, j'aurais pu me poser la question à savoir, mais comment ça se fait, Seigneur, que moi je suis pas guéri? Mon épouse est atteinte du diabète juvénile depuis qu'elle est petite et elle n'a pas reçu la guérison de Dieu. Dieu l'a soutenue jusqu'à aujourd'hui, Dieu la préserve jusqu'à aujourd'hui, Dieu la soutient jusqu'à aujourd'hui, mais elle n'a pas reçu la guérison que mon père a reçu de son côté. Donc, on pourrait se demander, mais où est la fidélité de Dieu? Alors, on doit revenir et à ce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu n'a pas dit qu'il guérissait tous les malades, il a dit qu'il guérissait toutes les maladies, ce qui sont deux choses bien différentes. Donc, mise en doute de la fidélité de Dieu, mise en doute de la véracité de la parole de Dieu, mise en doute de notre certitude face à la véracité et à la véracité de la parole et à la fidélité de Dieu. La tentation va se manifester aussi d'une façon très claire. Il va dire à Jésus, le diable va dire à Jésus, « Jette-toi et assurément, ils vont te secourir. » Assurément, Dieu va envoyer ses anges pour te secourir parce que il est écrit qu'il ne laissera pas ton pied heurter contre une pierre. Donc, assurément, si tu te jettes, tu vas être secouru. Qu'est-ce que le diable fait à ce moment-là? Il est dit à Jésus, « Oblige Dieu à faire quelque chose. » Quand Jésus serait sur le temple et il se jetterait, c'est très conditionnel, il ne l'a pas fait, je le rappelle. Mais si Jésus s'était jeté du temple, ce qu'il aurait fait en se jetant du temple, c'est qu'il aurait obligé Dieu à intervenir alors que ce n'est pas la chose qu'il voulait. Dieu ne veut pas qu'on se suicide. Alors dire « je vais me jeter en bas pour forcer la volonté de Dieu », c'est un péché. Donc, obliger Dieu à intervenir. Voilà une tentation dans laquelle on saute régulièrement ou on tombe régulièrement. Obliger Dieu à intervenir. Combien de fois notre relation avec le Seigneur, on est un peu capricieux et on agit en donnant pratiquement des ordres à Dieu, en imposant une volonté à Dieu. On vient le mettre à l'épreuve et on va revenir sur cette notion tout à l'heure. On force Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire, ce qu'il n'a pas désiré faire dans notre vie. Alors, le diable nous amène ici dans ce piège de forcer la main de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, dans sa dernière prière, et dans la prière qu'il a enseigné à ses disciples à répéter que ta volonté soit faite. Dans le Notre Père, il va mentionner cette prière. Et lorsque il arrive lui-même à Gethsémané et qu'il fait cette prière en disant « Au Père, si tu pouvais retirer de mes lèvres cette coupe, mais en toute chose, qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite. » Donc, il soumet sa volonté à Dieu et il n'impose pas sa volonté à Dieu. Obliger Dieu à intervenir, ce serait faire un caprice, ce serait aussi faire une insubordination. Parce que Dieu nous dit quoi faire et non pas nous qui disons à Dieu quoi faire. Lorsque je commence à dicter des ordres à quelqu'un qui est plus haut gradé que moi, dans le plan militaire, on appelle ça de l'insubordination. Et le diable, dans cette tentation par rapport à Jésus, le pousse à faire effectivement de l'insubordination. Donc, amener à obliger Dieu à intervenir ou pousser Dieu à intervenir. Un aspect aussi un peu plus ombragé, on va dire, ce n'est pas un hasard que le diable amène Jésus au-dessus du temple. Il l'amène dans la ville sainte et dans le lieu le plus saint qui soit, le temple, le lieu le plus saint de la ville sainte. Il l'amène au haut du temple et très régulièrement, on va sombrer dans cette phase à une religiosité à travers laquelle on cache notre immaturité et dans laquelle on voudrait jusqu'à un certain point justifier notre abandon ou notre abandon face à la tentation. Très souvent, on va justifier nos mauvais penchants et on va les cacher par une religiosité. Jésus ici est amené dans la ville sainte, sur le lieu le plus saint de la ville sainte, en prenant des versets pour justifier ce qu'il pourrait faire. Alors, il y a tout cet aspect de religion, de religiosité qui tourne autour de Jésus. Faisons attention de ne pas paraître, entre guillemets, spirituel, mais que ça cache, en fait, des attitudes très mondaines et très humaines, voire des attitudes qui sont carrément opposées à la volonté de Dieu. On essaie parfois de justifier notre propre volonté en sortant des textes bibliques de leur contexte pour en faire, comme on le dit à l'occasion, des prétextes. Donc, prendre un texte et le sortir de son contexte pour en faire un prétexte de faire quelque chose, c'est une mauvaise attitude. C'est de l'immaturité spirituelle malgré tout le côté religieux et très pseudo-spirituel qu'on affiche. Alors, quelle est la réponse de Jésus? Comme hier, les deux premiers éléments sont que Jésus s'est ancré et s'est réfugié dans la parole de Dieu. Le diable lui propose quelque chose, Jésus lui répond avec la parole de Dieu. De surcroît à cela, il va proclamer de façon audible la parole de Dieu. Encore une fois, il y a une puissance dans la proclamation de l'Évangile, il y a une puissance dans la proclamation de la parole de Dieu, et il y a un effet libérateur, et de surcroît à cela, un effet qui nous lie à Dieu lorsque nous proclamons de façon audible notre espérance, notre foi et notre assurance en la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus va faire en troisième point? Il va refuser de tester Dieu. Il va utiliser un autre terme ici. Il va dire, il est aussi écrit, donc il lui répond par la parole de Dieu, il la proclame de façon audible, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Jésus va répondre avec cette parole de Dieu et il va dire « On ne teste pas Dieu ou on ne tente pas Dieu. » Et les deux termes seraient tout à fait appropriés. Tenter, c'est peirazo, et tester, c'est ek peirazo. Donc, il y a un petit ek qui est rajouté. C'est un mot de la même famille. Parfois, on va dire « Non, je ne tente pas Dieu, je teste Dieu simplement. » le testage ou le test qui est souligné ici ou qui est proposé ici, et pei ratso, c'est de tester Dieu pour prouver la non-légitimité de Dieu. Donc, tester Dieu pour prouver qu'effectivement, j'avais pleinement raison de craindre, de ne pas avoir d'assurance, de ne pas avoir foi. La tentation, c'est pour faire chuter, et la Bible nous dit que personne ne tente Dieu. Donc, on ne peut pas tenter Dieu. Il n'est pas tenté par le mal. Mais parce qu'on ne peut pas le tenter, parfois nous, on va aller le tester. Et le terme que Jésus utilise là, tenter, si on le retrouve dans sa forme ou formulation grecque, il va nous parler de mettre à l'épreuve, de tester, de mettre au test quelqu'un pour prouver la faiblesse et la petitesse de cette personne. Alors, on ne teste pas Dieu. Et je comprends. Vous allez me sortir deux versets. Vous allez me sortir tout d'abord l'histoire de Gédéon, qui, lorsque Dieu lui apparaît, va mettre des toisons, comme des tests devant Dieu. Si tu es vraiment avec moi, alors je mets quatre piquets, une peau d'animal tendue au-dessus, et demain matin, toute la rosée va avoir arrosé, va avoir mouiller l'herbe, mais la toison va rester sèche. Le lendemain, Gédéon arrive et effectivement, la toison est sèche, mais l'herbe est mouillée. Et il dit, je ne voudrais pas exagérer, je ne voudrais pas abuser, mais on fait un autre test. Demain, on fait l'inverse. La toison sera mouillée, mais l'herbe autour sera sèche. Il revient le lendemain matin et effectivement, la toison est mouillée et l'herbe est sèche. Et là, vous me direz, mais Gédéon a éprouvé Dieu à ce moment-là. Comprenons une chose, Gédéon est un néophyte avec Dieu. C'est un néophyte dans sa relation avec Dieu. Donc il y a des choses que Dieu peut permettre à un néophyte qu'il ne permettra pas à un enfant qui a grandi. Gédéon, il a été, et c'est le seul exemple biblique où on teste Dieu. C'est le seul exemple d'homme qui va mettre Dieu au test. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il est un néophyte, parce qu'il ne connaît pas Dieu, parce que Dieu ne s'est pas encore révélé à lui. Il commence dans sa relation et voilà pourquoi Gédéon va le faire. Lorsque je teste Dieu, j'impose à Dieu, voici comment tu vas me prouver que. Et je ne peux rien imposer à Dieu. Lorsque j'impose quelque chose à quelqu'un, c'est que je domine sur cette personne. Alors faisons gaffe, comme on dit en France, faisons attention à ne pas imposer notre volonté à Dieu par des tests. Vous me citerez aussi un autre exemple. Amenez vos dîmes à la maison de l'Éternel, éprouvez-moi ainsi pour voir si je ne répandrai pas sur vous ma bénédiction. Alors les gens disent, voilà le verset parfait. Dieu dit, amène ta dîme et éprouve-moi ainsi pour voir si je ne vais pas répandre ma grâce sur vous. Comprenez une chose. Quand Dieu est en train de dire, éprouvez-moi à travers la dîme, c'est en étant fidèle à moi, teste-moi, je vais être fidèle à toi. En étant fidèle à moi, je répondrai aussi par ma fidélité. Dans le test qui est proposé à Jésus, quel est le bénéfice de Dieu? Aucun. Dans le test de Gédéon, quel est le bénéfice de Dieu? Aucun. Dans le passage concernant la dîme et l'épreuve, la mise à l'épreuve de Dieu, comprenons une chose, c'est tout simplement de dire, sois fidèle et tu me verras aussi dans ma fidélité. Sois fidèle envers moi et je réponds à ta fidélité avec ma propre fidélité. Engage-toi envers moi et je réponds moi-même envers toi par mon engagement. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas tout simplement de prendre autorité sur Dieu. C'est sois fidèle à ce que j'ai demandé et tu verras que moi aussi, je suis fidèle à ce que j'ai proclamé. Donc, Jésus va refuser de tester Dieu. Il va refuser de ek pei ratso, Dieu. Il va déclarer. Il va prendre la décision
et déclarer qu'il fait confiance à Dieu en disant au diable, je ne tenterai pas Dieu. En disant au diable, je ne testerai pas Dieu. Il est en train de dire, moi je crois à la parole de Dieu et je n'ai pas besoin que Dieu me prouve qu'il est réellement qui il est. Je le crois. J'ai cette foi-là. Donc Jésus va répondre avec une décision déclarée d'avoir foi en Dieu. La foi vient éteindre les traits enflammés du diable. La foi nous permet d'éteindre les tentations du diable. Le diable ne peut pas dépasser notre foi. Notre foi va éteindre ses tentatives, ses tentations. Et enfin, lorsque Jésus dit « Moi, je décide de croire à la parole de Dieu », Jésus est aussi en train de dire « Je me soumets délibérément à Dieu. Je me soumets délibérément à Dieu. Je ne forcerai pas la main de Dieu. Je n'ai aucun besoin de le tester. Je lui fais confiance qu'il est fidèle. Je lui fais confiance qu'il est bon. Je lui fais confiance que sa parole est absolument, totalement véridique, véritable et vérité. Alors, je n'ai pas besoin de tester Dieu. » Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu le diable qui nous dit, « Crois-tu vraiment être capable? » Aujourd'hui, il nous dit, « Crois-tu vraiment que Dieu est capable? » Et à cela, nous lui répondons, « Dieu est capable, totalement capable, pleinement capable. » J'ai un exemple dans la parole de Dieu que je trouve fantastique. Vous pourrez le relire dans le livre de Daniel. C'est lorsque Shadrach, Meshach et Abednego vont être envoyés dans la fournaise ardente. Ils ont refusé d'adorer l'idole du roi. Ils ont refusé de se soumettre à lui. Et le roi leur dit, « Mais voilà, quand la trompette va sonner, adorez-moi, sinon... » Quel est le Dieu qui pourra vous secourir? Et la réponse des trois compagnons de Daniel est intéressante. Elle dit, Dieu a tout pouvoir pour nous secourir. Mais s'il n'en était pas, sache ô roi que nous ne plierons pas les genoux devant toi. Les trois compagnons de Daniel applique exactement ce qu'on a vu aujourd'hui et ce que Jésus lui-même a appliqué dans cette tentation ou dans cette deuxième tentation. Je crois que Dieu est exactement qui il dit qu'il est. Je n'ai pas besoin de le tester. Je n'ai pas besoin de le mettre à l'épreuve. Et sache que oui, il a toute la puissance de me délivrer. Mais même s'il ne le faisait pas, je te dis au roi, je te dis Satan, je te dis au tentateur, que je ne plierai pas les genoux devant toi. Sommes-nous de l'acabit de Jésus? Sommes-nous de l'acabit, du même acabit que Shadrach, Meshach, Abednego? Est-ce que nous avons cette confiance placée en Dieu qui dit, Dieu peut me délivrer, mais même s'il ne nous délivrait pas, nous ne céderions pas, nous ne plierons pas les genoux, nous resterons fidèles à Dieu, tel que nous l'avons été jusqu'à présent. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait, c'est ce que toi, ma sœur, toi, mon frère, tu es aussi capable de faire. Alors, merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Merci Seigneur pour cette exhortation à rester ferme, à rester intègre par rapport à nos promesses, à nos vœux, à ton égard, mais aussi Seigneur, rester dans la foi absolue que ta parole est vérité, pleine vérité, totale vérité. Nous te faisons confiance. Nous n'avons pas besoin d'une délivrance pour te faire confiance. Nous n'avons pas besoin d'une guérison pour te faire confiance. Nous n'avons pas besoin d'un miracle, d'un prodige pour te faire confiance. Nous avons décidé de placer en toi notre foi. Que tu agisses, que tu n'agisses pas, tout ce que tu fais est parfait. Et à l'instar de Job, peu importe les situations dans lesquelles nous passons, nous sommes là à dire la même chose. Dieu a donné, Dieu a retiré. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors Seigneur, j'appelle ta bénédiction sur ma sœur, sur mon frère. J'appelle, Seigneur, une nouvelle prise de conscience et une nouvelle prise de décision à ton égard, de ta fille, de ton fils et de moi-même, pour que sous la tentation, sous les feux de l'ennemi, notre foi puisse effectivement éteindre ces feux, que notre foi puisse effectivement contredire les propos du diable, que notre foi garde nos yeux rivés sur toi et notre destination étant ton plan, ta volonté, ton parfait plan, tes parfaits desseins, ta parfaite volonté. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Ça a été encore une joie d'être avec vous ce matin. On se retrouve demain matin pour terminer donc notre étude sur la tentation de Christ. Faites attention à ce que le diable voudrait vous amener à faire, voudrait vous amener à prendre comme position. Restez ferme dans la parole de Dieu, fermement accroché, une foi vibrante et une foi engagée et proclamée envers votre Seigneur. Alors, bonne journée à tous. On se retrouve demain. On vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour l'assemblée de dimanche matin afin d'y assister en présentiel. Sur ce, bonne journée à tous. On se retrouve demain. Au revoir tout le monde.